Voral.
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 Les archives orales.
Les archives orales. Plongés à corps perdu et à gorge profonde dans les archives LGBTQIA+, on dépoussière les fossiles à base d'entretiens, de morceaux choisis, d'objets trouvés, de découvertes musicales et de lectures.
Qu'est-ce qu'une archive ? C'est tout, c'est rien, c'est n'importe quoi, c'est toi, c'est nous.
Le quatrième mercredi du mois, à 16h30 sur Radio Galère.
Bonjour et bienvenue dans la 8e émission de Voral, l'émission queer des archives, Voral queer LGBT. Aujourd'hui, c'est une spéciale cruising dans Voral. Alors, si ce mot ne vous évoque pas grand-chose, ou rien du tout, c'est le moment de plonger avec nous dans le grand bain des récits et d'images qu'on va traverser ensemble. À travers un entretien, des archives perso, des témoignages d'inconnus, jusqu'à la mort de Pasolini, on vous propose de s'embarquer. On ne manquera pas, après cette heure assez riche, de parler des actualités marseillaises avec le festival de cinéma Transgaze qui a démarré déjà hier au Vidéodrome 2 et qui continue jusqu'à la fin de la semaine, ainsi que la quinzaine stupéfiante qui s'annonce, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. C'est parti. On commence par un entretien de Laurent Guessade.
Bonjour, vous êtes bien dans Voral et aujourd'hui on va commencer par un montage d'une rencontre qu'on a faite avec Laurent Lola Guessade. Et Laurent Lola, on l'a rencontré un soir au Manshaft, qui est un lieu bien connu des nuits secrètes marseillaises. Et ça a donné une rencontre radiophonique pour parler cruising et de ses folles années à Marseille dans les années 90. Laurent Lola est militante contre le sida, d'abord à ACT UP en Angleterre, puis à AIDS à Marseille. Et il est devenu universitaire et pédale itinérante en camion. On s'écoute ça tout de suite, c'est Voral.
On est au Mont-Rose, on a essayé de rejoindre Laurent Lola en traversant les buissons dans les bourrasques de Mistral. Il n'y a pas grand monde. On slalome entre les figuiers de Barbarie et des touffes d'herbe, car c'est l'hiver et l'endroit est touffu.
Touffu, mais il y a très peu de cruising. A priori, on n'a croisé aucune pédale cachée dans les buissons. Pas d'emballage suspect par terre. Je suis un peu déçue.
Tout juste des petits mouchoirs par-ci par-là. On sent que la prep est arrivée, finalement.
On est perdu. Audio description, on voit des rochers blancs et il y a des arbustes. L'herbe est verte. Ah, on a retrouvé un petit chemin.
Oh la mer.
Et la mer est, comme on disait?
La mer est frisée, il y a beaucoup de vent.
Frisée telle, des poils pubiens à l'horizon. Je crois qu'on a trouvé quelque chose.
Un petit couchage de fortune fait de quelques couvertures étendues dans le creux d'un buisson.
Et les gens ont l'air de s'être bien hydratés car il y a des bouteilles en plastique d'eau minérale. C'est important l'hydratation quand on part en randonnée sexuelle également. Les hommes passent nonchalants, l'air de rien. Ils sont nuls là pour le paysage.
Et oui, parce que récemment, les sentiers de randonnée ont été retracés par la municipalité. Et du coup, ça attire un public beaucoup moins cruiseur et beaucoup plus famille hétéro venu faire des petites randos sympas proches du centre.
Je crois que Laurent s'impatiente. J'ai reçu un message. Alors, jeu de piste. Il faut la trouver maintenant.
Dans l'arène, le petit creux où les gens vont se baigner d'habitude, qui fait une espèce de dévalade, ça se dit pas.
Une dévalade, bah maintenant ça se dit.
Une dévalade vers l'eau, de rocher, dans lequel tu descends, tu te sens comme dans une arène finalement.
Comme dans la petite sirène également.
Un peu dans la fosse au lion aussi.
Et quasi lion. Alors peut-être ça pourrait être caché par là. Ah non, c'est un pêcheur. Quelqu'un me racontait que
Il se demandait la première fois qu'il était venu ici pourquoi il y avait autant de cannes à pêche esselées. Et après, il a compris, il a vu que certains pêcheurs montaient sur la colline.
Jésus-Marie-Joseph, dans quel endroit de perdition nous emmènes-tu ?
Un vrai parcours de la combattante. Quelle belle vue !
Ah oui, ça se mérite par contre.
Ah, une montée vers l'amour. Ah, c'est pas mise à l'endroit plus fastoche.
Je pense qu'on a croisé notre premier cruiser.
Ah oui, est-ce que tu peux nous décrire la scène ?
Donc on est en train de descendre et en se retournant sur un surplomb rocheux, on aperçoit une silhouette dans un anorak avec un bonnet gris, les bras croisés qui semblent regarder l'horizon, les personnes en bas, on ne sait pas trop, c'est une image énigmatique. Hello! Salut!
Ici, on est rue Abbé de l'Épée. Et la rue Abbé de l'Épée, en tout cas le bas de la rue de l'Abbé de l'Épée, parce qu'elle est très longue, elle vient quand même de la plaine. Elle est très très longue. Et elle se termine sur un parking en bas qui est à côté d'un boulodrome, à côté duquel il y a, ça fait beaucoup d'à côté, l'ancien Square Doria. Ce Square Doria, je l'appelle Doria, mais tout le monde l'appelait Sébasto. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu vois comme les lieux bougent. On est dans, du coup, les lieux de drague à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on y drague encore. J'ai essayé de faire descendre un mec d'une appli Grindr qui était à la Timone en lui disant « Viens, on se retrouve au boulodrome. » Le boulodrome est très sombre, par contre, en bas. Mais du coup, Doria, les gens appelaient ça Sébasto, de Sébastopol, de la place Sébastopol, qui, elle, est à quelques minutes de l'autre côté, parce que sur la place Sébastopol, il y avait une pissotière où ça draguait. Et quand on a rasé la pissotière, le lieu s'est déplacé. Le lieu de drague s'est déplacé sur le coin de verdure le plus proche, qui était ce fameux Square Doria. Sauf que le Square Doria, il a subi des amputations de buissons, de terrain, parce qu'ils ont installé une crèche et la crèche a absorbé une partie du terrain. On a arraché toute la végétation, on a mis cette espèce de sol en gomme, tu vois, pour pas que les enfants se blessent. Et du coup, ça a été hyper éclairé, même si je dois dire que c'est quand même un endroit où j'ai essayer de détruire des halogènes au lance-pierre. Je m'étais acheté un lance-pierre à Empereur, tu vois, un super lance-pierre qui se cale sur l'avant-bras comme ça, tu vois, comme ça. Et bref, ça a été ici vraiment un lieu de drague important. Et la rue Abbé de l'Épée, il y avait aussi des travailleurs du sexe, des mecs essentiellement, contre les arbres un peu plus bas. Et comme elle a une contre-allée, ça permettait de faire ce que certains appelaient vire-vire, à la fois vire et virer tout autour de cet énorme pâté où il y a la sécurité sociale et la crame, par le boulevard Sacchini, remonter par Chaves, remonter par la rue Georges, repartir sur l'Abbé de l'Épée. Et donc ça tournait dans ce sens-là, en permanence, les bagnoles. Et tu pouvais soit racoler, que tu dragues ou que tu tapines, tu pouvais racoler en rue, en marchant le long du trottoir, en te postant contre les arbres ou sous les réverbères, soit te rapprocher du boulodrome où il faisait quand même beaucoup plus sombre, et surtout aller dans les jardins du Square Doria qui à l'époque n'était pas si éclairé et qui était très boisé, quoi. Et il y avait du monde en fait, hein, et l'éclairage ou les lagages, ben, dans un premier temps, c'est marrant, il y avait les pompiers à côté de nous. Le pompier du petit matin, bien entendu. Oui, parce qu'il y avait ces... Pour le coup, ici, c'était vraiment un lieu de grande mixité entre hommes, mais de grande mixité, dans la mesure où, effectivement, il pouvait y avoir le pompier de la caserne à côté, tout à fait, ou le boulanger qui commençait tôt le matin, ou le gardien du boulodrome, je peux le dire, il était tellement âgé qu'il est sûrement plus de cette terre aujourd'hui, ou des gardiens, même les vigiles, en fait, hein, parce que certains racontent que les vigiles faisaient rentrer aussi les gens. Tu vois, il y a aussi ces légendes, en fait, tu vois, où, où l'interlope, c'est justement cette entrelope, où du coup, il y en a un qui a les clés, il y en a un qui, voilà, il en est, mais il n'en est pas, quoi. Cette espèce de pas vu, pas pris. Pour le coup, il y avait aussi tous les mecs mariés, les mecs hétéros, les mecs pédés qui se déguisaient en hétéros parce qu'ils cherchaient des mecs qui ressemblaient à des hétéros, tu vois. J'ai parlé de ça, de l'hétéro comme désir d'ailleurs dans le monde de la drague. Moi, je me souviens d'un copain qui racontait que quand il allait draguer, il se déguisait en mec. Je marche comme ça, je fais le kéké marseillais parce qu'en fait, j'aime bien rencontrer un kéké marseillais.
Alors là, petite audio description, Laurent Lola vient de déambuler les jambes arquées en bougeant les bras de gauche à droite.
C'est très agité.
Yeah.
Moi, l'arrivée à Toulouse et le début de mes études en sociologie, ça a été tout de suite d'étudier la ville comme un laboratoire, et en particulier un laboratoire des altérités, quoi. Des coprésences, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est justement toutes les approches qu'on appelle d'ethnographie immersive, c'est-à-dire du coup les points de vue situés, parler de l'intérieur ou du moins pouvoir être dans des milieux dont on ne parle pas et les révéler. Donc en fait le choix des lieux de drague il s'est imposé assez vite, à la fois parce que pour le coup moi je venais de la lutte contre le sida, comme tu le dis, de l'action sociale finalement, on peut dire ça, et de la santé publique. Et pour moi, ça a été vraiment une entreprise de déconstruction, de démolition de tout ce que j'avais pu penser en termes de catégories aussi. Et en particulier de catégories épidémiologiques, tu vois. Homo, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. Je voulais tordre le cou à ça tout de suite, le plus vite possible. Et le terrain des lieux de drague, c'était un terrain idéal justement pour parler de ces mixités entre homo, entre hétéro, de ces passages, de ces transitions entre univers de normes. Je ne faisais pas de différence pour moi entre un mec pédé marié qui débarquait discretos pendant que son mec était en week-end ailleurs et un mec qui était marié avec une meuf en réalité. Ils étaient dans des démarches qui étaient analogues. Moi, j'avais envie effectivement de passer par les lieux, vraiment, et oublier les identités, au moins provisoirement en tout cas. Peut-être pour les réintroduire plus tard, mais ce que je proposais, c'est de mener une enquête sur les territoires en fait et sur leur histoire. Comment ils étaient apparus, comment ils s'étaient déplacés, quelle était la relation entre ces lieux interlopes et les politiques de la ville, comment il y avait une morale riveraine qui du coup avait tendance à faire en sorte que ces lieux disparaissent, mais ces lieux revenaient tout le temps, à côté, sur les bords, quand on éclairait un endroit, ou qu'on élaguait et qu'on coupait les buissons ou qu'on fermait un parc, ben, c'était les portes cochères. Ici dans le quartier, j'avais des codes même de certaines résidences par exemple qui pouvaient circuler sous le manteau et les gens savaient que du coup si la personne se garait tu pouvais aller baiser dans telle porte cochère à tel endroit. Il y a toujours eu des manières finalement de réinvestir les lieux et moi ça me fascinait de travailler là-dessus. J'avais proposé un travail sur ce que j'avais appelé les formes notoires de sexualité secrète. Des sexualités qui étaient secrètes, mais en réalité tout le monde savait qu'elles existaient. Les premiers temps où j'essayais d'expliquer ce que je voulais dire, je prenais l'exemple de la masturbation en disant « Vous voyez, tout le monde sait que la masturbation existe et que tout le monde se masturbe, mais en réalité, je ne peux pas dire « je me masturbe » parce qu'en réalité, l'expérience même de la masturbation implique de ma part une organisation à la fois spatiale et temporelle, extrêmement ténue pour que ça n'ait pas de conséquences sur le reste de mon existence et que je ne sois pas surpris par ma mère ou par... Voilà, j'aménage un espèce d'espace où je vais pouvoir disposer de mon propre corps sans que ça ait de conséquences morales sur moi, en fait. Et je prenais ce paradigme-là pour parler aussi bien de catégories comme l'adultère ou... Et du coup, cette drague homosexuelle telle qu'on l'a qualifiée, puisque du coup, c'était quand même principalement des hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes, mais pour le coup, ça ne concernait pas que les homosexuels, et ça me paraissait très important de le dire, peut-être parce que j'avais grandi, moi, dans un univers où il n'y avait pas de lieu à proprement parler gay, identitaire, et que très tôt, j'avais baisé avec des hétéros, en fait. Et qu'en fait, on a toujours baisé avec les hétéros. Et qu'en fait, on ne parle pas de ça, en fait. On ne parle pas de ces franchissements. Et j'ai construit vraiment tout mon projet d'enquête sur les lieux de drague dans le sud, de Toulouse à Marseille et jusqu'à Barcelone, dans les villes dans un premier temps, où il semblait évident que la ville procurait une certaine liberté, un certain anonymat, et c'était peut-être comme ça que ça a fonctionné. Mais aussi finalement dans le périurbain ou dans des lieux diurnes et petit à petit à la campagne. Où là pour le coup, comment un lieu de drague en pleine campagne où les réseaux d'interconnaissance entre les gens étaient si étroits pouvaient exister. Et là ça prenait vraiment pour le coup une autre dimension, un autre intérêt de se dire qu'il pouvait exister dans les villages. Un petit peu comme le cinéaste Guy Roddy le montre en toile de fond de la plupart de ses films. Une forme d'homosexualité presque très ancienne qui a toujours été là et qu'on ne voit pas parce que seuls ceux qui sont concernés la voient et elle peut exister comme une espèce de société parallèle extrêmement proche mais cachée pour ceux qui n'en partagent pas les codes ou les motifs.
C'est le nageur que tu cherches, je ne l'ai pas vu cet après-midi.
Il va venir. Fais chier, chaque fois qu'un mec me plaît, il faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Ça a l'air sérieux, leur histoire. L'autre, il le lâche pas.
Il n'y a pas que lui non plus.
Salut.
Bonjour.
T'as pas vu des femmes?
Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit, là.
Ok, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Mais je te jure qu'il est bizarre.
Vous empêchez à noyer ce matin?
Déjà que le silure en avait refroidi, putain.
Le silure, ça attaque pas l'homme.
C'est pas parce qu'on l'a jamais vu que ça se peut pas.
Vous pensez à un meurtre?
À ta place, j'aurais peur.
Moi, je trouvais ça extrêmement intéressant de m'arrêter sur une autoroute avec ma mère, mon fils, mon frère, et de leur dire « vous voyez quelque chose ?» Et eux, ils voyaient rien. Ils voyaient rien, alors que c'était tellement évident que les mecs étaient là, sortaient de leur bagnole, allaient dans les toilettes. Mais comme eux ne s'étaient pas posé la question, évidemment qu'ils n'avaient pas cette réciprocité, en fait, cette espèce comme ça de partage des codes. Et je trouvais ça fascinant qu'on puisse être à la fois visible et invisible dans les endroits les plus centraux, comme les halls de gare, les foules des grandes villes. Et je ne voulais pas passer par la case identité, au moins pas dans un premier temps. En fait. Après, évidemment, j'y suis venu. D'abord parce que la plupart des lieux de drague étaient relativement non mixtes et que pour le coup, il a bien fallu que je raconte que c'était une espèce de maison des hommes au sens classique anthropologique du terme, un lieu de socialisation au masculin, où pour le coup, c'était bien des codes masculins que les gens avaient bien acquis quelque part. En fait, des compétences bien particulières qu'ils avaient acquis dans leur rapport à l'espace public, dans leur rapport à la nuit, dans leur rapport à la dangerosité, et que ça, finalement, il fallait en parler aussi à terme. Quoi. J'ai eu la chance d'être formé à une sociologie de l'invisible, de l'informel, de la clandestinité, avec un spécialiste des migrations internationales et des économies informelles, avec, pour le coup, toujours une possibilité de dire que tout cet interlope, finalement, parce que quand je parlais de mon travail, les gens, ils étaient un peu... Oh là là, c'est quoi ces lieux, c'est quoi ces histoires, ça paraît tellement glauque et tellement, etc. Et moi, ça me paraissait tellement immanent, en fait, ce désir, le fait qu'un simple échange de regards pouvait créer un espace de drague, en fait, directement dans l'espace public. Et ce qu'il fallait dire de ces relations entre hommes dans des espaces qui finalement restaient non mixtes, c'est qu'elles étaient... très fortement marqué par un consensus. Je me souviens parce que quand j'ai défendu mon projet de recherche, on m'a dit « tu ne parles pas beaucoup de la violence, des agressions homophobes ». J'ai dit « écoutez, moi dans un premier temps, je trouve que quand on va au milieu de l'île du Ramier et qu'il y a une trentaine d'hommes qui s'approchent du corps les uns des autres comme ça et qui s'exposent au corps les uns des autres, je trouve que ce qu'il faut mettre en avant, c'est leur forme de consentement entre eux quand même. Parce que c'est inédit que là, tout soit consenti et que par un effet effectivement qui est presque symétrique, les comportements soient aussi harceleurs dans d'autres situations de la part des hommes, en fait. J'étais finalement, on me disait parle de la violence, je disais mais les rapports sont extrêmement paisibles en fait. On peut rentrer dans une touze, dans une maison en ruine, au milieu d'un bois, sur une île en pleine nuit et en sortir. Les refus ne provoquent pas de scandale, on écarte une main, on va voir un peu plus loin. Enfin, des scènes qu'on a toujours connues finalement, hein, dans les lieux de cul, qu'ils soient hors les murs ou dans les murs. Parfois j'ai fait l'expérience d'amener des copines lesbiennes dans les lieux par exemple, qui disaient « amène-nous ». Je l'ai déguisé en garçon, je l'ai transitionné provisoirement, tu sais, et je les amenais pour le coup... sur ces lieux, elles étaient très surprises parce que elles étaient surprises par le silence et par le justement par elles pensaient qu'elle allait avoir des cris, du bruit. Elles pensaient que ça allait être violent. Et à chaque fois, je leur disais, je me souviens, c'était à Bruxelles, dans le parc royal, dans les bas-fonds. Et elles voyaient ces silhouettes qui bougeaient en silence, le peu de mots échangés. Espèce comme ça d'anonymat. Alors, bon, il y aurait beaucoup à dire évidemment sur le peu de mots échangés, sur la masculinité, évidemment, c'est un très vaste c'est un très vaste sujet aujourd'hui, et j'ai presque envie même de raconter le contraire de ça. Tu sais, on pense les masculinités comme des sexualités qui seraient nécessairement arelationnelles, tu sais. J'embrasse pas, tu vois, un petit peu comme au tapin, quoi, pour les femmes. J'y ai passé tellement de temps à rôder dans cette rue, et mon amie Agnès, qui est décédée fin décembre, elle habitait rue Raspail, donc à deux pas d'ici. Donc quand je dormais chez elle, je passais ma vie là, en fait, des nuits entières. Il n'y avait pas les applis, de toute façon. Les gens te disent les applis ont tué les lieux de drague, c'est faux. C'est faux. Ils sont toujours là, les lieux de drague. Demain, on va aller au Réaltor. Et je sais qu'il y aura des mecs qui draguent. Donc il y a toujours, finalement, ces lieux. Ils ont tenu. Tu sais, il y a l'illusion comme quoi ça appartiendrait à un autre temps, à une autre époque. Comme si, finalement, avec l'arrivée des applications, on serait passé véritablement à... une abstraction de nos corps, de l'espace public. Ben non, nos corps, ils sont toujours dans l'espace public, en fait. Il y a cette expérience un peu étonnante que j'ai faite un week-end à Paris. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait. C'était super bizarre. Je rentrais de Bruxelles et je suis allé dans le Marais. J'ai bu un verre avec un pote et puis après, je me suis retrouvé tout seul. Je suis allé manger dans un petit resto Viet à côté du Quetzal et je discutais avec la patronne. Et elle tenait son resto, donc elle me laissait seul à l'extérieur. Et je me suis mis en pied de grue devant le bar, tu vois juste le comme ça quoi. Tu peux pas le voir dans la truc, mais contre le mur, le pied contre le mur comme ça, tu vois. J'étais comme ça devant le resto et je finissais mon coca en fumant ma clope et tout d'un coup je me suis dit putain c'est dingue en fait, les gens ils regardent un peu bizarre et les mecs qui allaient au Quetzal ils me regardaient et ça crée un truc un peu bizarre comme une rupture, tu sais, de script. T'es censé aller au bar, boire ta bière, payer. Et pas juste racoler comme ça directement dans la rue. Et alors, ce week-end-là, c'est très bizarre ce qui m'est arrivé parce que c'était tellement une découverte, c'était il n'y a pas longtemps, hein, que je me suis dit, je vais faire le tour par la rue derrière et au lieu d'aller au Coq, je suis dans un endroit comme ça où il y a tous les PD agglomérés, etc. Je suis allé me mettre à côté du Crédit Agricole ou de je ne sais quelle banque, à l'angle de la rue des Archives et de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, en face de l'Open qui d'ailleurs a fermé. Et il y avait du coup des planches sur ce barguet qui a fermé. Maintenant, il y a carrément une boutique de Doc Martens, je crois. Bref, le Marais dans sa gentrification, hein, et pas plus le Marais d'avant. Et là, j'étais en train de vivre quelque chose de tout à fait différent. Et j'ai passé toute ma soirée à faire le pied de grue à l'angle de la rue. Alors au bout de 10 minutes, il y a un mec en Uber qui est venu me proposer de la drogue. Il m'a dit « Tu cherches quoi ?» J'ai dit « Et toi, tu cherches quoi ?» Alors il a éclaté de rire. Et je me suis dit « C'est dingue, on ne fait plus ça, simplement être là, contre un mur, sans consommer où que ce soit, juste à être soi potentiellement consommable en fait. » Tu vois, du coup, une espèce d'inversion. Mais je suis rentré chez l'ami qui m'hébergeait Porte des Lilas. J'arrivais pas à dormir, c'était la pleine lune, tu vois. Et j'ai regardé un film, deux films... Et je rentrais de Bruxelles, donc du coup, j'étais encore dans le mood Bruxelles, la fête, la drogue et tout ça. Et je me suis dit, ok, il est 5h30 du matin, j'ai pris un trait de speed et je suis descendu dans le Marais. J'étais comme dans une espèce d'emprise de quelque chose, tu sais. Je laissais venir les événements, je dis, bah, écoute, fais ça, de toute façon, ton train est à midi. T'as qu'à prendre du speed, tu mangeras avec un collègue demain comme prévu avant ton train. En attendant, il est 5h30 du matin, tu vas dans le Marais. Sous speed, voir le Marais se réveiller. Je vais acheter des clopes à Saint-Paul, je fais un tour dans les Halles et dans le Marais, comme ça, au petit jour, alors que j'avais vécu tout ça les jours précédents, tu vois. J'avais l'impression d'avoir basculé 30 ans en arrière. Comment ça se fait qu'entre hommes cis, il y a une telle loyauté toute masculine à ce que tout le monde respecte tout le monde, quand pour le coup, dès qu'on est en mixité, c'est le bordel, quoi. Et tous les coups sont permis. Il y a quand même quelque chose qui, pour moi, relève d'une certaine symétrie. C'est pour ça que je parle des lieux de drague comme ça et que je mets autant l'accent sur les lieux de drague, sur ce consensus entre hommes. Pour revenir au Mindshaft, moi, ce n'est pas mon univers, en fait, du tout, la scène BDSM. Elle me fascine aussi à cause du... grâce au consentement, en fait, en réalité. La première fois... je crois que j'y étais jamais allé en fait au Mindshaft, mais j'étais comme une pucelle, j'avais hyper peur quoi. J'étais dans un mode de représentation et en fait au bout de 5 minutes je me suis dit mais c'est quoi cette histoire en fait quoi ? Comment t'as pu penser une seconde que précisément dans un endroit BDSM ce serait pas le lieu où tu ne ferais qu'exactement ce que tu as décidé de faire, en fait. Il m'est arrivé, en fait, une situation de me faire draguer par un jeune mec trans bourré de testo que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie, en fait, que ça se passe comme ça, tu vois. Et que, alors qu'on se connaît, pour le coup, tu vas reproduire les codes PD où ben, tu me diras pas bonjour, en fait, parce que si on se dit bonjour, ben, ça sera pas nos blabla. Tu vois, cette espèce de truc qui affecte totalement le monde PD, en fait. Ils en crèvent, en fait, en ce moment. Le chemsex, c'est quoi, hein? Sincèrement, c'est la fin d'une espèce aussi comme ça de modus operandi dans le désir qui exclurait le blabla, tu vois. Pour le coup, est-ce que l'idée, c'est d'aller encore plus là-dedans pour ou au contraire, d'inventer autre chose ou de brouiller encore les cartes? Moi, je suis pas d'accord pour qu'on dise non, c'est comme ça, parce que ça me va pas du tout, en fait. Ça me va pas du tout. Il faut qu'on passe par autre chose, on doit passer par l'amitié. Mais l'amitié, en tant que telle, pour le coup, s'il y a bien un tabou, c'est celui de baiser avec des gens qui sont nos amis, en fait. Pourtant, Foucault parlait vraiment d'amitié sexuelle au sens le plus noble possible. Moi, j'ai enquêté pendant des années sur les drogues dans le circuit festif gay en Europe, dans un univers qui était quand même très, très monogenré. Et en même temps, ce que je trouvais encore une fois. Le plus intéressant, c'était d'avoir des réseaux d'amitié socio-sexuelle transnationale. Évidemment, il y avait les substances, mais avant que les applis arrivent et du coup scindent, coupent, encore une fois, abstraient les corps de l'espace public réel et de la proximité des corps qui peuvent se toucher. Et du coup, avec cette question qui s'arrêtait d'être posée, elle est où l'after, c'est-à-dire en quoi à un moment donné j'ai fait la fête et je suis encore bien chaud, bien chaude et j'ai envie d'être avec des amis à domicile et ça peut basculer. Et pour le coup, finalement, tu te retrouves. Alors dans votre génération, ça a peut-être changé, hein, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, mais moi j'ai plein d'amis proches que je désire terriblement et qui me disent mais on se connaît trop en fait, tu vois. Et j'ai envie de dire mais en réalité, qu'est-ce qui se passe là, quoi? Pourquoi? Là où les hétéros auraient le tabou de l'inceste, dont on sait effectivement à quel point c'est tabou, quand on se tourne du côté de l'inceste, y compris par les instances qui s'en prennent à nous comme l'Église, et on se dit mais c'est délirant, c'est-à-dire qu'au moment même où les scandales éclatent autour du tabou de l'inceste, est-ce que nous, on est capable d'interroger le tabou de l'inceste amical, en fait? Est-ce que nous, pour le coup... Alors je sais que oui, mais je trouve qu'on n'en parle pas, en fait. C'est franchissement, en fait, en réalité. Et là, il y a des questions de pouvoir qui viennent s'en mêler, nécessairement. Pour le coup, moi, la question de ce tabou d'amitié et de sexualité, il y a vraiment des amis que j'aime d'une amitié qui est hybride, en fait, en réalité. Je les aime tellement passionnément, amicalement, qu'en fait, je me demande à un moment donné si la catégorie avec laquelle je suis en train de définir mon sentiment, c'est la bonne, quoi. Ou alors, tu partages un corps, quoi, tu vois. Mais du coup, finalement, tu es avec un ou une amie. Tu partages un corps, mais parce que tu es ami avec cette personne, finalement, ce corps fera médiation entre nos deux corps. Mais entre nous, on sera juste sœur, frère ou adelphes, quoi, tu vois. Ça ne résout pas l'environnement spatial tel qu'il peut être normé majoritairement. Ça ne le résout pas. Et c'est là qu'il y a du coup des stratégies de conquête, hein. Les meufs trans, elles ont fait énormément de boulot pour faire bouger les lignes à cet endroit-là. Derrière tout ce qui apparaît comme quelque chose où le sexe et les sentiments seraient séparés, qu'est-ce qui nous empêche de dire que sucer une bite à travers un gloriole, c'est pas un geste amoureux, quoi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on est dans la tête des gens pour ressentir ce qu'ils et elles ressentent dans ce moment-là et dire ce que c'est, quoi?
Vous êtes toujours sur Voral, l'émission des archives orales de mémoire des sexualités. On vient d'écouter un montage d'un entretien qu'on a mené avec Lupa auprès de Laurent Lola Guessane. Et donc Laurent Lola a présenté à Marseille il y a peu de temps le cruising et notamment un livre sur lequel il a travaillé avec une photographe qui s'appelle Amélie Landry. Le livre s'appelle « Les chemins égarés, géographie sociale des lieux de sexualité entre hommes ». Et il a collaboré aussi avec Mathieu Riboulet sur les textes. Je vous conseille vraiment ce livre. Et on avait envie de vous partager des témoignages de mecs qui font du cruising, qui vont sur ces fameux lieux de drague. Et c'est tout de suite sur Voral.
Dans les lieux de rencontre, il y a des pratiques, des méthodes pour communiquer qui ne sont pas autorisées ailleurs. Dans notre société, les gens n'osent pas se toucher. Ils ne peuvent le faire que s'ils sont en couple, si les choses sont organisées, acceptées. Ces lieux, au contraire, le permettent. On y a accès à quelque chose de sauvage, d'animal que j'aime beaucoup. Dans ces rapports, le verbe peut être complètement absent. Les hommes se rapprochent, se touchent, peuvent rester un long moment à échanger, à partager des choses très fortes, parfois sans même avoir à échanger, entendu le son de leur voix. Je trouve ça assez beau. Il y a le langage du corps, de la caresse, de tout un acte sexuel sans connaître le prénom de l'autre. Même si personnellement, après une rencontre comme ça, j'aime bien demander à la personne comment elle s'appelle. Sinon, je trouve intéressant de ne pas avoir à parler. Il y a de la poésie dans tout ça, parce que justement, ce que les hommes vont chercher, c'est de la caresse ou de la violence, mais c'est une forme de poésie. Le labyrinthe, on s'y perd géographiquement, mais aussi dans la pensée. On cherche à aller au fond de soi, dans les profondeurs. Dans le monde actuel, certains portent une souffrance parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils vivent des choses superficielles qui ne leur suffisent plus. Le labyrinthe des bois ou des lieux de drague me fait penser à ce que l'on recherche dans l'ivresse. Par l'alcool, parce que c'est légal ou par d'autres produits, ils se coupent de la réalité. Ils se coupent d'eux-mêmes aussi, d'une partie en tout cas. D'autres arrivent à le faire par la méditation. Si l'on parle de sexualité, il y a ceux pour qui certains désirs sont insupportables. En arrêtant la pensée, ils ont accès à certaines choses, à un contact sauvage avec l'autre, un contact où les classes sociales sont abolies. C'est curieux, presque amusant, quand des gens cherchent à détruire ce labyrinthe, ces endroits isolés où personne ne se promène. Ils veulent interdire une activité qui, on pourrait le croire, ne les concerne pas. Un élu qui intervient, par exemple, pour un bois où personne ne va à part les renards et les grenouilles et décide de bloquer un budget pour raser les buissons pour que les hommes ne s'y rencontrent plus. Il est concerné, il a un problème avec ça, sinon il ne s'en occuperait pas. Parfois, c'est les voisins qui lui disent « On sait qu'il y a des gens qui se rencontrent là, ça nous gêne ». S'il était complètement équilibré, il répondrait « Vous avez raison, mais j'ai aussi remarqué qu'à l'autre bout du village, il y a des champs entiers où les lapins font la même chose. Il faudrait qu'on rase l'herbe ?» Dans un endroit sauvage, restez 20 minutes sans bouger et vous verrez les oiseaux arriver. C'est pareil sur un parking un tout petit peu isolé. Bon, il y a certains critères que seuls les initiés peuvent connaître. C'est comme les chasseurs ou les pêcheurs. Ils ont des secrets pour savoir que là, tout à coup, l'animal va passer. Ben là, c'est la même chose. Tu repères le petit bois, tu restes une demi-heure, tu passes par les petits chemins et tu vas les voir arriver. Il y a ce besoin naturel, naturel et gratuit. C'est quand même génial aujourd'hui où tout est payant. On sait que la seule chose que l'on ne peut pas acheter, c'est l'amour. La sexualité aussi peut être partagée gratuitement. Et quand c'est dans la nature, c'est très beau. C'est aussi ça que je trouve agréable. Un partage, sans que ce soit organisé. Bien sûr, il y a une forme d'organisation, mais elle est inconsciente, tant pour soi-même que pour le lieu. Il n'y a pas un conseil municipal qui s'est réuni et a dit « Bon, on va faire 3 allées à droite, une allée à gauche. » La rencontre en elle-même a aussi quelque chose de magique. À un moment donné, quelque chose va se passer, puis ce sera terminé. On ne se reverra peut-être jamais, il n'y aura rien d'inscrit, pas de ticket de caisse, rien de gravé. C'est beau. Le labyrinthe permet ça. J'ai un souvenir qui est très fort sur une aire d'autoroute près de mon travail. J'y allais beaucoup et un jour j'ai rencontré un garçon que j'ai revu très souvent par la suite au même endroit. Il s'arrêtait avant de rentrer chez lui pour retrouver sa copine. On s'est enlacés, on a fait l'amour, et d'un coup il s'est mis à pleuvoir. Je me souviens lui avoir dit « Qu'est-ce qu'on fait? On reste ?» C'était la première fois de ma vie que je sentais à la fois la pluie qui coulait sur ma peau et le corps d'un autre qui me réchauffait. Une chaleur très forte, c'était merveilleux. Si on avait eu peur de se mouiller, ce moment se serait arrêté, on ne se serait jamais revus. C'était une première fois. Il pouvait ne pas y en avoir d'autres. C'était Hervé, depuis la Bretagne.
Sofiane, Rhône-Alpes. Pour nous, c'était à l'ancienne. Les lieux de drague étaient en l'occurrence des parcs, des toilettes publiques et puis des saunas. Avant, il n'y avait pas de discothèque gay. Je ne parle pas des grandes agglomérations comme Lyon ou Marseille, mais d'ici, en Savoie, en Haute-Savoie ou en Auvergne par exemple. Il n'y a pas de clientèle extériorisée et affirmée, et donc forcément, un commerce gay ne peut pas vraiment exister. Les gens ont peur d'être reconnus, et ne les fréquente donc pas. Ça me rappelle un peu la prohibition aux États-Unis. C'est plutôt par le bouche à oreille que l'on apprend qu'il y a un endroit où l'on peut rencontrer des gars, assouvir ses fantasmes, ou simplement avoir un rapport sexuel pour la bonne forme, nous les hommes, peut-être un peu plus que les femmes. On a eu besoin dans les années 70-80 d'avoir des lieux qui nous permettaient de rencontrer des personnes qui avaient la même orientation. Le premier lieu a été le sauna pour moi. C'est à Genève que j'ai découvert qu'il y avait des bars gays, des discothèques et des saunas. Ça n'a pas été évident. J'ai poussé la porte avec une certaine appréhension, c'était le baptême de l'air. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, comment ça se passait à l'intérieur. Est-ce que c'était un marché de la viande? D'ailleurs ça existe à Paris, les gens y entrent uniquement pour avoir un rapport sexuel. Moi je suis plus classique, 1 à 2 rapports par semaine. Quand j'avais 18 ans, Internet n'existait pas. Il n'y avait pas de téléphone portable. À l'époque, on draguait encore sur Minitel, 3615 hommes. Mes parents n'en avaient pas, mais j'ai eu l'occasion de l'utiliser chez un ami. Sa mère en avait un. Il y avait le téléphone rose aussi, mais c'était hors de prix. C'était comme Internet, sauf que c'était un peu plus direct, moins superficiel. Depuis 10 ans que je suis connecté, j'ai dû rencontrer 3 garçons, c'est extrêmement peu. Maintenant, la nouvelle génération vit sa sexualité virtuellement. Et si vous allez dans les parcs, vous verrez que l'âge moyen, c'est plus ou moins le mien, c'est-à-dire 35 ans et au-delà. C'est cette génération qui a connu le réel plutôt que le virtuel. Vous y verrez rarement un type d'une 20aine d'années. Les personnes qui fréquentent ces endroits quotidiennement n'ont pas une soif sexuelle plus importante que vous et moi. Elle est tout à fait normale, mais ils cherchent à compenser leur solitude et sont prêts pour l'atténuer, à rencontrer quelqu'un sexuellement. Je ne suis pas en train de dire que la majorité des homosexuels sont malheureux et seuls, mais dans ces lieux-là, ce sont des gens qui ont besoin d'une présence. Après, il y a plusieurs catégories d'hommes qui vont les fréquenter. Il y a beaucoup d'hétérosexuels ou d'homosexuels refoulés. Bien souvent, quand vous allez dans un parc assez tard le soir, il y a énormément de voitures qui ont des sièges pour enfants à l'arrière. Pourquoi un homosexuel en aurait un? Ce sont généralement des hommes qui se sont mariés par rapport à des principes, parce qu'ils n'osaient pas s'affirmer. Mais qui fréquentent quand même ces lieux. Ou bien des hommes très âgés qui se retrouvent seuls. J'y suis allé, il y a 15 jours, en sortant du travail. Il était 23h30. J'ai voulu faire un petit détour avant de rentrer, ça me prend moins de 10 minutes. Il y avait déjà d'autres personnes, mais qui ne me plaisaient pas forcément, et au moment où j'allais partir, quelqu'un est arrivé, a garé sa voiture et s'est dirigé vers la mienne. Cette personne me plaisait, et j'ai donc eu un rapport sexuel, on va dire très soft. Je trouve l'endroit assez poétique et assez beau. Bon, avec les sacs, c'est moins glamour. Mais il reste sympa. Le labyrinthe ici sert plutôt à éviter que les gens sortent des voies, justement pour faciliter la rencontre. Sans lui, on perdrait des heures avant de tomber les uns sur les autres. Là, au contraire, même si ça fait comme un sentier de promenade organisé, ça facilite la rencontre. Moi, je suis musulman non pratiquant, et les homosexuels de confession musulmane... Des pays arabes, en tout cas musulmans, il y en a beaucoup qui se cachent. Ceux qui s'affirment comme moi sont moins nombreux. J'en ai connu 3 en 22 ans. Je crois qu'il y en a énormément qui se voilent la face et vont avoir ce genre de pratique loin de chez eux. Là où on ne peut pas les reconnaître. C'est quelque chose de mondial. En Algérie, il n'y a pas de discothèque, ni de sauna, ni de bar, mais il y a des endroits gays. Comme il n'existe aucune structure qui vous permette de le faire, le seul moyen pour se rencontrer, ce sont les parcs ou les lieux un peu isolés que seuls les initiés peuvent connaître.
Alors avant d'écouter une petite musique, on voulait vous partager un exercice auquel on s'est prêté, Alice et moi, cet après-midi, d'écrire chacune un petit texte, un petit bout qui raconte notre rapport au cruising. Le cruising, j'ai cru passer à côté en transitionnant, que ça resterait un rendez-vous manqué de mes quelques années de corps PD cisgenre. Finalement, je n'aurai que des demi-regrets, quelques vagues jalousies en écoutant les récits de mes potes. J'avais cruisé Grindr jusqu'à l'écœurement, pratiqué le cul dans l'espace public, mais toujours un peu à côté de la mythologie traditionnelle de la drague en extérieur, avec un sentiment d'imposture qui n'était peut-être depuis le début qu'une dysphorie latente, un sentiment de ne pas correspondre, de non-appartenance. Aujourd'hui, j'existe dans le cruising comme un corps en mouvement, dans l'entre-deux de la binarité que j'habite au hasard des regards qui m'assignent un peu différemment à chaque fois. Des toilettes du TGV au Mont Rose, le cruising fait finalement partie de ma vie, comme un espace intermédiaire dans lequel je rencontre des corps qui dépassent des cases, des PD au placard, des hétérocurieux et des anonymes dont la vie restera toujours, pour moi comme pour eux, un mystère pénétrable.
Si je pense au cruising, c'est la prise d'espace et les interstices. Baiser dans le paysage, frissonner aux abords des départementales, baisser les yeux et avaler sa salive au détour d'un buisson en voie de dessèchement. Être très ouvertement à couvert. La proposition est claire et ça subsiste où ça peut. Et plutôt, c'est pas pour moi. C'est un univers connexe à ma galaxie dans lequel je ne suis pas vraiment invitée. Invisible ou intrusive. C'est un peu comme ça que je me sens. C'est une histoire de corps en déviance qui prennent la place dans les marges du visible, qui me renvoie fort que j'ai mille latitudes à inventer si je veux m'approprier les codes pédales de la jouissance et de ce qui reste de la honte intégrée dans les chairs. Bref, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand je drague, je cruise? Les eye contact et les shops de fin de dance floor, c'est des simili-espaces de cruising? Les sex parties queer où je croise toutes les têtes de mes cousines éloignées au quatrième degré, c'est du cruising? Est-ce que je ne croisais pas plus à la fin de mon adolescence hétéro, quand je croisais des yeux curieux dans la rue et que je me laissais aborder quelques minutes plus tard avec des issues à géométrie variable? Quand je baise à la rivière, est-ce que c'est un quart de cruising? Est-ce que j'ai la flemme? Est-ce que je peux abandonner l'idée qu'il n'en est pas seulement une, que mon corps en jeu dans l'espace public peut être autre chose que menacé? Bon, bref, moi j'aime bien aussi les lumières tamisées et le velours, donc... Je vous laisse écouter une petite chanson un peu sexy de Mouni Long.
Mm-hmm. Yeah. I don't usually do this, but
oh my god.
Can I say it to you? Talk to you for hours. I wanna give you your flowers and some champagne showers, all the shrimp and lobster towers. But it's me that gets devoured. Ooh, when you do what you do, I'm empowered. You give me a superpower. Together the world could be ours. You sit me up on the counter. Instantly it's thunder showers, storming for a couple hours. When we finish, take a shower. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours. When I say nobody, I mean nobody. All these niggas full of shit. You're just the homie once they hit. Felt like
like giving up on love. Made me quit. Then I met you. When I met you, I knew this was it. I've never been in love like this. A love like ours. I pray for it on my knees. Every night for some hours. And hours and hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. What's yours is mine and ours, and yours mine and ours. I can sit and talk to you for hours, sit and look at you for hours, making love to you for hours, laying on your chest for hours, telling you jokes for hours, holding you close for hours, and hours. Oh, 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 oh,
c'est sexy voral. Aujourd'hui, on parle de cruising. C'est-à-dire, c'est quoi le cruising? On n'a toujours pas expliqué. C'est quand on se drague dans l'espace public. Et à ce sujet, comme les textes, vos textes viennent de l'évoquer, souvent on associe ça plus aux gays cisgenres, c'est-à-dire pas transgenres. Et moi, ça me fait penser à des choses qui m'ont marqué en fait dans mon parcours, que j'ai pu voir en vidéo. Dans tout ce qui est un peu porno plus trans ou queer ou même post-porno, il y a le travail de Buck Angel qui est un mec trans porn star aux États-Unis qui très tôt en fait a été faire des vidéos sur des lieux de cruising, par exemple sur une plage, des lieux de cruising PD, tout ce qu'il y a de plus classique dans ce sens, mais avec son corps de mec trans. Alors après, c'est un mec trans, je veux dire, qui a, comme on dit, un très très bon passing, mais qui, pour le coup, n'avait pas eu d'opération du bas, comme on dit, et donc qui allait avec ses parties originales en bas faire du cruising avec des mecs. Et ça donne des choses assez incroyables, puisque les mecs au début sont assez interloqués, mais se laissent aller au plaisir, tout simplement. Et c'était beau de pouvoir voir cette occupation de cet espace-là par un corps trans. Et après, il y a aussi tout le travail des camarades de Barcelone qui faisaient pas mal de post-porno, surtout autour des années 2010, par là. Donc je pense notamment au collectif Post-Op et à Diana Porno Terrorista, et elles étaient amusées aussi à aller faire du cruising entre Gwyn, en fait, d'aller Gwyn est trans et autres monstres, comme elles aiment s'appeler elles-mêmes. Elles étaient allées faire du cruising sur des plages de cruising PD à Barcelone, et ça aussi c'était assez intéressant de voir comment ça venait subvertir l'espace, et que les gens étaient, et les PD en l'occurrence, étaient assez surpris de voir ces meufs queer débarquer. Voilà pour la petite histoire. Et je crois que maintenant, c'est notre chère rubrique, la top 50 de ta chère tante.
La top 50 de ta vieille tante.
Alors, pour cette top 50 de ta chère tante, aujourd'hui, on va écouter Lamento per la morte de Pasolini, qui est un morceau de Giovanna Marini, écrit en 1975. Giovanna Marini, c'est une chanteuse, chercheuse en ethnomusicologie et compositrice italienne qui est morte cette année. Voilà, et moi, je l'adore. Donc, je suis très triste qu'elle soit morte. Et elle raconte que sa vie, elle a changé au début des années 60 en rencontrant Pasolini, parce qu'elle, elle étudiait la musique classique et puis elle était bien partie dans ses rails. Et puis avec cette rencontre avec Pasolini, il l'a un peu invitée à aller étudier, écouter, faire vivre la musique, le chant social. Donc des chansons de révolte, des chansons qui racontent des chansons dans plein de dialectes italiens. Je ne sais pas si j'ai dit qu'elle était italienne. Et qui sont liées à des contextes, à des communautés qui étaient attaquées à ce moment-là par l'exode rural, la société de consommation, l'uniformisation via la télévision et tout ça. Et en 1975, elle écrit ce morceau, qui est un morceau très triste, vous allez l'entendre, parce que c'est un morceau qu'elle a écrit pour, en hommage à Pasolini après sa mort. Et donc, il a été assassiné le 1er novembre 1975 sur la plage d'Ostie, près de Rome, qui était un lieu de drague. Et la personne qui a été arrêtée et emprisonnée pour ce meurtre, ça a été un jeune prostitué de 17 ans. Et bien que l'enquête, on voyait bien qu'elle était complètement bidon, que toutes les pistes n'étaient pas écoutées, qu'elle a été complètement bâclée. Et mais comme il a reconnu ce crime et qu'il a dit qu'il était tout seul, alors que tout montrait que c'était pas vrai, que c'était pas possible, c'est donc lui qui a été accusé de ce meurtre. Et 30 ans plus tard, il a pris parole officiellement à la télévision pour dire qu'en fait, c'était pas du tout lui, que pendant 30 ans, il avait assumé ce meurtre par peur des représailles, mais qu'en fait, c'était une toute autre histoire que cette histoire que les journaux aimaient bien raconter, qui était mort sur la plage, sur un lieu de drague, etc. Et donc cette enquête, elle n'est pas close, l'enquête de la mort de Pasolini. Il y a eu récemment, là en 2023, il y a la commission antimafia qui a rendu un rapport à partir d'un témoignage d'un mafieux repenti qui a raconté en fait qu'il y avait tout un piège qui avait été monté pour l'attirer sur la plage en volant des bobines de son film. Et en fait que c'était vraiment un piège, un coup monté, parce qu'en fait, à ce moment-là, Pasolini, il écrivait son roman Petrolio, où un roman qui est paru après sa mort, où il raconte la corruption du monde politique, les liens troubles qu'il peut y avoir avec la criminalité organisée, les liens entre les services secrets italiens, la CIA, l'OTAN et tout ça. Voilà. Et donc on va écouter ce morceau et on va continuer après avec Pasolini.
Persi le forze mie, persi l'ingegno, che la morte m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno, le 11 le volte che l'ho visto. Gli vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto. Le 11 un quarto io mi sento ferito. Davanti agli occhi ho le mani spezzate. E la lingua mi diceva andate, andate. Le 11 un quarto io mi sento ferito. Le 11 e mezza mi sento morire. La lingua mi cercava le parole. E tutto mi diceva che non giova. Le 11 e mezza mi sento morire. Mezzanotte mo da confessare. Cerco il perdono dalla madre mia e questo è un dovere che ho da fare. Io a mezzanotte mo da confessare, ma quella notte volevo parlare. La pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare. Ma io la notte volevo parlare. E non può, non può.
Si on vous parle de Pasolini aujourd'hui, c'est pas non plus par hasard, c'est aussi parce que parfois, quand les archives sont absentes, qu'on n'a pas de documents historiques pour avoir accès à une époque, à un milieu, la littérature, ça reste aussi une porte d'entrée vers des moments qu'on n'a pas pu connaître. Et pour ça, je vous propose une petite lecture d'un roman de Pier Paolo Pasolini, Une vie violente, écrit en 1959, dont le personnage principal, Tommasino, vit dans la zone de Rome avec une bande de garnements qui découvre la vie sous ses aspects les plus cruels, misère, maladie, faim, vol, prostitution, mort. Il devint un de ces Vitelloni qui chasse les filles, vole des voitures, se livre à des attaques à main armée. Il est condamné à 2 ans de prison. Et on va en lire un petit bout qui parle de cruising. Tommaso s'approcha. Et là, un peu à l'écart, il vit un fils de pute comme lui, avec son petit pardessus noir sur son bleu de travail, en train de lire Il Tifone à la lumière d'un réverbère. D'autres fils de pute, un randouillard avec une mèche longue de 20 cm et un autre sec, les mains dans les poches, se tenait debout près du parapet. Était assis celui qui avait dit « Mmm, les prêtresses !» et qui avait pris maintenant un air hautain, le menton de billet sur l'épaule, comme si on allait le prendre en photo. 2 autres, eux aussi très dédaigneux et altiers, qui, sur le parapet, dominaient la scène avec détachement. 2 autres encore, au contraire, étaient adossés au parapet et parlaient avec les mecs. Un de ces deux-là, un blond coiffé à la Lolo Brigida, était peut-être une femme, et Tommaso le reluquait hésitant. Ce qui vit que le blond se mit lui aussi à le reluquer, tout en continuant sa conversation avec les autres, lui plaquant sur le visage des œillades directes et occasionnelles, comme s'il ne regardait pas Tommaso, mais quelque chose derrière lui. Ce blond ne parlait pas avec les autres. Son collègue se chargeait de parler, et c'était touchant chichi. Lui, il se taisait et se contentait d'approuver, et à chaque fois qu'il approuvait, faisant signe que oui, il ne baissait pas seulement la tête, mais courbait les épaules et tout le corps, comme s'il s'enfonçait du talon dans un trou, tout pareil aux demoiselles dans les films quand elles font la révérence devant un roi. Puis, pour reprendre une position normale, il se secouait un peu avec un petit air de défi, très altier, mais la bouche et les yeux rieurs. Ses coups d'œil à Tommaso devenaient de plus en plus fréquents, et Tommaso, se déplaçant sans se presser, tout bouffi, s'approcha encore un peu en s'allumant une clope. L'autre le regarda un peu plus longuement et moins distrêmement. Il avait les sourcils rasés et refaits au crayon, les cils d'un doigt de long comme ceux des actrices, et les joues très lisses, comme une pêche, maquillée, avec de la crème et un peu de rouge à lèvres. Il avait vraiment toutes les beautés. Ses cheveux coiffés à la Lolo Brigida ressortaient du col relevé de son pardessus en poil de chameau. L'autre, très sérieux, qui parlait avec les deux mecs qui l'écoutaient en silence comme un poste de radio, se mit lui aussi à coller des coups d'œil comme des timbres sur Tommaso, ça et là sur tout le corps. Il était très indigné sous le coup de l'histoire qu'il racontait, mais quand il regardait Tommaso, son indignation retombait un instant aussi sec. On aurait dit qu'il avait 4 yeux, 2 pour parler de l'embrouille où il disait avoir raison, et 2 pour lorgner de ci de là. Tout à coup, il s'interrompit et s'adressant à Tommaso, fit « Qu'il est ce mal ? L'on l'a jamais vu ce bar-là. Diable ça, qu'est-ce qui est canon ?» Tommaso ricana, en portant la cigarette à sa bouche et souffla ensuite la fumée sur le visage du petit pédé qui avait parlé. « Présentons-nous tant qu'on y est, tu crois pas ?»« Hé, je dis moi, qu'on est entre gens civilisés, n'est-ce pas » dit-il, baissant son menton sous son épaule et se tortillant dans tous les sens. Puis il allongea la main, l'attendit à Tommaso en disant « Je suis la popolane, chantez !» Tommaso entra ainsi dans le cercle. L'autre, petit pédé, qui se taisait toujours, se taisait encore, mais il foudroya Tommaso du regard. « D'où ce que tu vins ?» lui fit toute moelleuse la popolana. « Pietra lata !» fit lourdement Tommaso. S'exclama la popolane en le regardant avec un intérêt renouvelé et se tordant encore plus en un agréable frisson de terreur dans le dos. « Pourquoi ? Ça te bourre pas ?» demanda Tommaso. Sambour, si, Sambour, mon beau, fit la Popolana d'une voix retentissante. Quoi ça ? Fit l'un de ceux qui étaient assis à l'écart sur le parapet. T'as tes chaleurs ce soir ? Ils parlaient tous comme les Feminielli, les Femmelés, moitié napolitains, avec la voix des vedettes de music hall qu'on aurait dit qu'elles avaient dans la gorge une gousse de haricots. Tommaso, pendant que la Popolana parlait, s'approcha, s'adossant lui aussi au parapet. Et oh le beau brun, fit-il. Tu me permets un mot ? Dis, fit l'autre, lançant un coup en l'air de la tête encadré par un petit col. Mettons-nous un peu par là, fit Tommaso, onctueux et sûr de lui. Et pourquoi ? Nous sommes si bien ici, fit le petit pédé. Je veux parler à toi seul, fit vexé Tommaso. Pourquoi ? L'autre haussa les épaules. Mais Tommaso le saisit sous le bras et l'entraîna un peu plus loin, vers la deuxième rampe de l'escalier. Le petit pédé bougea, et quand il bougea, on vit qu'il était estropié, qu'il boitait, qu'il avait une jambe plus courte que l'autre d'un demi-mètre, et quand il marchait, on aurait dit qu'il faisait à chaque pas un tour complet sur lui-même. Dès qu'ils furent un peu à l'écart, dans un endroit assez sombre, ils restèrent là à confabuler un moment très tendu. Mais enfin, au bout d'un certain temps, Tommaso revint tout quoi vers le groupe, en fumant hargneux, et le boiteux le suivit. Après avoir navigué 5 minutes sur les pavés en tournicotant, il reprit sa place parmi les autres. Entraînant ses pauvres arpions, Tommaso parcourut entièrement via Duamacelli, s'engagea dans Piazza Baredini, puis via Bisolati et revient à la gare, au jardinet de Piazza et Cedra. Il avait encore 10 lire en poche et se rendit dans un bar pour acheter une dernière nationale. Il s'évanouit presque en passant devant la vitrine des gâteaux, car il n'avait rien mangé depuis la veille au soir. Il était déjà presque 11 heures. Mais dans les jardinets, et même plus loin, autour de la fontaine, avec ses jets d'eau illuminés qui semblaient de glace, il y avait encore du monde. C'était la première nuit tiède de l'année. Et d'ailleurs, avec la gare et la tête de ligne des tramways de la Steffer près de là, il y avait toujours de l'animation. Un bon nombre de personnes continuaient à monter et descendre des cabinets, bien qu'il ne fût plus nécessaire d'y faire la queue. Tommaso y descendit, fit très sérieusement ce qu'il devait y faire, même s'il n'en avait pas besoin, mais ne trouva personne, et il remonta.
Il était du genre insatiable. Il aimait ça, c'est sûr. Il y a un mois de ça, j'ai débarqué en pleine scène d'orgie. Il y avait 5 mecs autour de Karl. Et lui passait d'un type à l'autre. Les yeux illuminés.
Écoutez-le, écoutez-le.
À la merci de ses partenaires comme possédés. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, les autres, qu'on ne sait plus où on est, ça vous est jamais arrivé. Une forme d'amour, en quelque sorte. Puissant. Vorace.
On vient d'écouter un extrait du film Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez que Lupa m'a conseillé sur le thème du cruising à peu près, puisque c'est un film avec Vanessa Paradis qui joue une productrice de films porno gay dans les années 70. Et en fait, il y a un mystérieux meurtrier qui tue des PD, notamment sur les lieux de cruising. C'était vraiment un film qui m'a vraiment marqué, donc merci pour la recommandation.
Mais avec plaisir.
Je vous recommande vraiment d'aller le voir. Et pour cette petite rubrique cinéma et conseils de films à voir sur le thème du cruising, il y a aussi le film qui s'appelle Cruising, avec Al Pacino dans le rôle principal, qui joue un flic qui fait une enquête aussi sur la mort sur un tueur en série en fait qui œuvre dans les bas-fonds new-yorkais. Et notamment dans le milieu cuir PD. Et ce film à l'époque a fait couler beaucoup d'encre de nos camarades militants et les a fait se mobiliser parce qu'ils considéraient que c'était un film vraiment très homophobe. Je vous conseille quand même de le regarder, c'est intéressant parce qu'il y a des scènes dans des boîtes SM. Chose qui n'était pas très courante à l'écran à l'époque. Et pour la petite histoire, c'est un film qui a dû en fait, ils ont dû refaire tout le son en post-production, puisque nos camarades militants étaient allés manifester à côté du tournage à Central Park, et tellement ils ont crié fort leur slogan que la bande-son était ensuite inutilisable. Voilà, mais je vous conseille quand même de regarder ce film. Voilà, on est toujours dans Voral, l'émission des archives orales, et on va s'écouter une petite musique.
Des berges grises, on voit parfois la nuit. Des ombres indécises frôlant les quais sans bruit. Les êtres se rapprochent sans un mot dans la nuit. Ceux qui mentent le jour, la nuit cherche l'amour, le cœur trop lourd. La pâle lune éclaire dans un halo la nuit. Ses étreintes glacées au bord de l'eau qui fuit. Brusquement dans l'ombre, un homme s'arrête. On ne voit que sa cigarette. Partout le désir rôde, amer, pervers, la nuit. Les couples enlacés se reflètent dans l'eau. Ils leur furtifs baisers s'effacent aussitôt. Quelques gueux alignés, là sous l'arche d'un pont, s'endorment résignés d'un lourd sommeil profond. La nuit.
Vous êtes toujours dans Voral, l'émission des archives orales, et on écoutait Le long des berges grises, une chanson de Reda Kerr sortie en 1935 et rééditée en 2006 dans la compilation Chansons interlopes de Martin Perret. Une compilation ciblée sur les chansons parues entre 1906 et 1966 qui se caractérise par la confusion du genre ou de l'ambiguïté sexuelle. En effet, les chansons faites à l'époque où le mot homosexuel ne s'employait pas comme de nos jours, notamment dans les chansons, et jouent sur l'ambiguïté, le sous-entendu et les stéréotypes.
Charmant programme. Eh bien voilà, c'est déjà bientôt la fin de l'émission Voral de ce mois de mars.
C'était super.
C'était super. Et on vous souhaite, avec l'arrivée du printemps, plein de nouvelles aventures dans l'espace public.
Et dans l'espace communautaire, on vous lance un petit agenda avec Transgaze et la quinzaine stupéfiante qui nous seront présentées par Céleste et Clem.
Bonsoir. Alors Transgaze, du coup, c'est un festival qui se tiendra cette semaine, donc du 25 au 30 mars 2025 au Vidéodrome 2 à Marseille. Transgay, c'est du coup un festival basé au Vidéodrome, donc dans un cinéma, et dédié aux représentations trans. Donc on a plusieurs formats lors de cette édition, de la performance audiovisuelle, du court-métrage, du long-métrage, du porn, et on a aussi une scène ouverte ce jeudi au Centre LGBT. On avait envie de faire un festival qui était dédié aux artistes trans. Il se trouve que Heidi travaille au Vidéodrome 2 et du coup on a organisé ce festival l'année dernière à l'occasion de la journée de la visibilité trans. Après nous on fait un choix qui est de ne pas parler de visibilité mais de représentation plutôt. Nous on trouve que donner de l'espace comme celui-là aux artistes trans, ça permet plusieurs choses. En fait, d'un côté, il y a un truc d'accès et aux moyens de production et aux scènes pour les artistes trans qui est plus compliqué. Et d'un autre côté, il y a quand on évolue dans des sphères institutionnelles, par exemple, une espèce de lecture simpliste de nos arts, de nos pratiques. On est toujours perçu au travers de ce prisme, même quand nous, on ne définit pas ce qu'on fait en relation avec notre transitude ou quoi. Et du coup, nous, on trouve que créer un espace comme ça d'une semaine dans lequel il y a plusieurs séances, il y a plusieurs artistes de Marseille d'ailleurs qui se rencontrent, ça permet en fait aux artistes de s'exprimer un peu dans toute leur complexité. Et ça, c'est parce qu'on arrive à créer un environnement qui est bienveillant, où les artistes se sentent perçus et où du coup en fait on peut aussi mettre en avant le fait qu'il n'y a pas un gaze trans, il y a toute une multitude d'artistes trans qui ont des regards très singuliers, mais de la même manière qu'il y a une multitude d'artistes cis, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire qu'il y a une création trans, un art trans bien établi, mais il y a en tout cas toute cette communauté qui est riche et protéiforme et qui, on l'espère, du coup, sera représentée cette semaine. On a une grande diversité de formats, donc on est dans un cinéma, on aura donc de la captation de performance, de la performance audiovisuelle, des courts-métrages, des extraits d'archives, des extraits de séries, de la conférence, des conférences, etc. On aura donc Teatro Rosa, Beia Baghena, le collectif Surgery Fairies. On aura des films de la Red Communitaria Trans en Colombie et on aura donc les fondatrices de la Red en visio dans une discussion animée par Selva González. On aura une conférence de Charlie Fabre, une performance et une séance curatée par Jamal Phoenix et deux conférences de Karine Espinera et Jasmine Mokrim. Vous pouvez retrouver du coup l'intégralité du programme sur le site internet du Vidéodrome 2 ou sur notre Insta, @trans_gaze, G-A-Z-E.
On a hâte de vous y retrouver, à très vite.
À très vite, bisous.
La quinzaine stupéfiante, c'est un événement, même je dirais même plus, une série d'événements qui a lieu chaque année à Marseille depuis 8 ans. Et bien comme son nom l'indique, ce n'est pas une semaine mais bien une quinzaine d'événements. Donc sur 15 jours, on programme différentes choses. L'idée c'est de créer des espaces où on peut parler des drogues, des consommations, sans jugement, sans tabou, avec qui veut bien en parler. Et donc, chaque année, on a différentes propositions.
Qu'est-ce qui s'est passé déjà ?
Alors là, on est au deuxième jour de la quinzaine. On a eu hier, lundi, une présentation d'un zine réalisé par des camarades de Toulouse et du Tarn qui s'appelle « Guide de voyage pour planer sans trop se cracher ». C'est une sorte de cahier de vacances pour consommateurs, consommatrices de drogue, où on peut répondre à des questions pour pouvoir discuter avec soi-même ou avec d'autres personnes de notre usage de drogue, désiré, subi, tout ça, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Aujourd'hui, on a eu un atelier, une discussion pour s'organiser collectivement. Donc c'était l'idée de créer un groupe de mobilisation ou d'action de personnes usagères de drogue, donc des personnes concernées. C'était proposé par l'Observatoire et Défense des droits des usagères de drogue qui est à Marseille. Voilà, donc on est au deuxième jour, l'ambiance commence à monter, hein, on peut pas le cacher là, ouh là là, on se chauffe, on se chauffe. Demain, je pense que ça va être déjà sur le chemin du climax. Nous aurons Bienvenue chez les Politoux, le lancement du zine Toxico Why Not Phobic or Not. Il y aura une présentation du zine, des stands de lecture, d'écriture, un enregistrement de témoignages, des questions et des commentaires sur le zine et même un apéro dansant. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera à Manifestaine, rue Thiers. Mais je ne sais pas quand vous écouterez cette émission.
Eh ben, justement, ça sera ce soir. Ce soir.
Donc arrêtez d'écouter la radio et venez à Manifestaine. Ensuite, vendredi, on n'arrête pas. Soirée de soutien à la quinzaine au Boom. Venez. On va danser. Ensuite, un week-end éminemment chargé avec samedi, une visite prostitutorique du quartier Saint-Jean, réservée aux filles soumises au contrôle médical obligatoire par Vilma. Alors c'est sur inscription, on a 20 personnes maximum, je ne suis pas sûre qu'il reste des places. Mais comme il y a toujours des personnes qui annulent, je ne sais pas, insistez. Ce sera samedi à 29 mars.
De toute façon, elle sera enregistrée et repassée dans Vorel du mois prochain.
Super, mais venez quand même. ce sera samedi 29 mars, mais aussi samedi 5 mars de 15h à 16h30. Rendez-vous place Sadi Carnot. Sur inscription néanmoins. Ensuite, samedi soir, samedi 29 à 20h, nous avons une pièce de théâtre au Théâtre de l'Œuvre qui s'appelle Irréversible. Ça dure 1h30. C'est Perrine Roux et Kevin Case qui plongent dans l'obsession du manque et l'addiction. Une pièce percutante qui questionne nos dépendances. C'est prix libre, mais c'est conseillé 8 euros. Ensuite, dimanche, nous avons... Qu'est-ce qui se passe dimanche ? Chez Jeanne. Alors, chez Jeanne, c'est un lieu extraordinaire à l'entrée des Calanques de Marseille. Il y aura la foire stupéfiante de 14h à 19h. Il y aura de la musique, une buvette, des ateliers, de la broderie. Voilà, tout plein de choses. C'est au 167 avenue de la Madrague de Montredon. Ensuite... Oh là là, j'ai plus de souffle, tellement il y a de choses. Une émission du Gang des Gazières qui invite les Politoux. Émission en direct de 20h à 22h.
C'est le mercredi 2 avril. Il y a aussi le collectif Jeudi Oui et le Tipeee, en plus des Politoux.
À l'amiante, le jeudi 3 avril, il y aura un atelier d'écriture poétique de 18h30 à 20h30. Inscrivez-vous, trouvez nos événements sur les réseaux sociaux, on est présent. Inscrivez-vous, envoyez un petit mail à quinzainestupéfiante@gmail.com. Ensuite, il y aura quelque chose au nom curieux, Légitime Défonce, à 21h, ce sera le partage d'un journal intime. Le Vidéodrome 2, vendredi 4 avril à 18h, la projection de super film sur Nan Golding et son combat contre les géants des labos d'opioïdes des États-Unis. Ça s'appelle Toute la beauté et le sang versé. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, franchement, c'est votre séance de rattrapage. Ou si vous voulez le revoir parce que c'est vraiment de la bombe, allez-y. Il y aura un échange ensuite avec l'équipe du Drug Lab et une intervention du CEIP, le Centre d'Addictovigilance de Marseille. Ça, c'est vendredi au Vidéodrome à 18h. Et on finit avec une soirée de clôture et de restitution à l'Amiante, le 5 avril, 61 bis de la Rotonde. Et on fêtera cette super quinzaine. Pourquoi il y a besoin de parler de drogue ? Bah parce que les drogues légales ou illégales, c'est des choses qui sont présentes partout. Il y a très peu d'espace pour en parler parce que c'est stigmatisé et criminalisé. Et du coup, il faut arriver à créer, malgré toute cette adversité, des espaces pour pouvoir échanger là-dessus.
Vive la quinzaine.
Ouais. Le public est en délire.
Ah non, je peux pas refaire. Je peux pas refaire. C'est spontané. Thank you.
Thank you.